Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Télévision Suisse.
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous allons célébrer la semaine de la langue française et de la francophonie aujourd'hui avec les voix de nos invités, un florilège d'histoire et de la musique. Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française revient dans la librairie francophone avec un nouveau roman très étonnant, l'histoire des sept mariages d'un couple atypique. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être un grand fidèle de cette émission. Vous portez la francophonie, vous, à travers vos livres, mais aussi à travers votre parcours professionnel, personnel, qui vous a conduit partout à travers le monde. L'Académie française est devenue d'ailleurs une académie très francophone aujourd'hui.
Très francophone parce qu'elle s'est ouverte dans son recrutement ces dernières années à beaucoup d'apports internationaux, Amine Malouf, Dany Laferrière, François Cheng, Andrei Makin, enfin on a vraiment des écrivains francophones nombreux et on en est très fiers.
Et ce n'est pas fini apparemment.
Non.
On verra ça. Nous parlerons de votre nouveau roman aujourd'hui dans un instant. Vous serez aussi confronté aux mots et aux pensées d'un immense comédien. Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
Ne faites pas cette tête, c'est vrai, vous êtes un immense comédien.
Oui, oui, oui.
Bah, à chaque fois que je vous dis ça, vous...
Ben oui, ça fait toujours sourire. 1m87.
Bon, vous racontez dans un nouveau livre comment les mots sont entrés dans votre vie et quels sont les livres qui vous ont marqué. Vous faites partie d'ailleurs de ceux qui pensent qu'un livre peut changer la vie de quelqu'un. C'est possible.
De toute façon, c'est pas une opinion. Je crois que c'est même une certitude. Je suis sûr que les livres qu'on lit ont une implication absolument profonde sur nous-mêmes. Oui, c'est sûr.
Bien. Bon, nous donnerons aussi un coup de projecteur sur le prix des 5 continents de la francophonie avec des extraits d'entretiens dans plusieurs endroits francophones dans le cadre de cette semaine de la francophonie. Et puis le groupe réunionnais Transcabar est en plateau avec nous pour un titre Maloya joué dans notre studio.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous, bien sûr. En France, Thomas Auxerre, de la librairie Lamandier à Puteaux. En Suisse, Claire Renaud, de la librairie L'Atmosphère à Genève. En Belgique, c'est Déborah Damblon, de la Licorne à Bruxelles. Et au Canada, nous retrouverons Josiane Letourneau, de la librairie du Square à Montréal. Bonjour à tous.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Ils adorent ça, ça rappelle des souvenirs. Sachez d'ailleurs qu'en raison d'un mouvement de grève à Radio France, l'émission est un peu perturbée aujourd'hui. En tout cas, c'est conditions techniques, mais tout le monde est là. Et puis comme chaque mois, un jeune lecteur sera avec nous pour vous conseiller un livre, une jeune lectrice nommée Rose, qui est sur notre plateau. Bonjour Transcabar, bonjour Jean-Didier Waro.
Bonjour.
Comment allez-vous, Jean-Didier ?
Ça va.
Vous êtes avec toute l'équipe qu'on présentera tout à l'heure.
Soir.
Vous êtes un groupe réunionnais. Vous jouerez un titre Maloya tout à l'heure. On commence toujours par une anecdote personnelle, une histoire émouvante, étonnante. Ce que vous voulez, on vous a choisi, vous, Jean-Didier. Que voulez-vous raconter ?
Bah, très bien. Là, on est à l'Abondance, à l'île de la Réunion, à Saint-Benoît.
Ouais.
Et souvent, quand j'allais en vacances, on y allait tous les 3 ans en congé bonifié avec les parents. Mon père, il travaillait à la poste, donc il avait des facilités comme ça tous les 3 ans. Et donc là, on est à l'Abondance. On se retrouve avec mon grand-père le matin. Je me pressais de me lever avec, pour aller voir ce qu'il faisait. Et donc, il allait donner à manger aux animaux. Et ce que j'ai retrouvé dans Transcabar, sur une date, on avait joué au collectif des fêtes pour le bal des migrants l'année dernière.
Ouais.
Et mon père, je voyais jeter le maïs comme ça dans la cour, et tout le monde, la cour, elle se mettait en ébullition, en branle, et pas que ça picorait dans ton côté. Et ce jour-là, on a joué avec Transcabar à la place collective des fêtes. Ben, c'est pareil. Le premier coup de guitare, c'était comme si on avait envoyé le maïs, et tout le monde, on a vu tout le monde s'agiter.
C'était comme à la Réunion, quoi.
C'était comme à la Réunion.
Ouais. Mais vous avez joué avec Daniel Waro, parce que vous êtes son neveu.
J'ai accompagné Daniel.
Et oui, vous avez plein d'histoires. Moi aussi, j'en ai plein des histoires. Des directs avec Daniel Waro et un Maloya qui dure 7 minutes 30, qu'on n'arrive pas à arrêter.
Ça arrive. Faut débrancher la prise, comme on dit.
C'est ça, on n'a pas débranché la prise. Transcabar est dans la librairie francophone cette semaine. Et Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française est aussi dans cette librairie. Votre nouveau roman, Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla, vient de paraître chez Gallimard. Jean-Christophe, un jeune homme et une jeune femme se rencontrent brièvement un jour dans l'ex-URSS. Edgar est parti comme ça avec sa copine de l'époque et un couple d'amis. Ils sont partis en voiture vers Moscou. Ils arrivent en Ukraine et là, ils voient une jeune femme complètement nue.
Dans un arbre.
Dans un arbre.
Oui, parce que, en fait, je suis parti d'un livre qui était dans la bibliothèque de ma mère, qui avait été écrit par Dominique Lapierre, et avec des photos d'un homme qui était un grand photographe, qui s'appelait Jean-Pierre Pedrazzini, qui a été tué à l'insurrection en Hongrie peu de temps après. Et ils avaient en effet traversé comme ça l'URSS.
Dominique Lapierre de La Cité de la Joie.
Voilà, exactement. Ah ouais. Et Paris brûle-t-il, enfin, tous ces grands romans. Ouais. Et ce livre m'a toujours fasciné, et j'ai toujours imaginez que, au cours de cette traversée de l'URSS, à l'époque, ils avaient forcément rencontré des gens dont ils n'avaient pas parlé, et que quelque chose, et notamment certainement une passion, avait pu naître comme ça.
Alors, sauf qu'elle, elle savait qu'il y avait des étrangers qui allaient arriver dans le village, on les avait prévenus de ne surtout pas s'adresser à eux. Alors, pour se faire remarquer, justement, elle se met nue dans cet arbre. Et de retour en France, Edgar va travailler pour un grand magazine français, Paris Match, et il demandera à retourner en Ukraine pour retrouver cette fille, la faire venir en France et se marier avec elle pour la première fois.
C'est le premier mariage.
Premier mariage, parce qu'il se sent l'âme d'un sauveur.
Oui, mais c'est un peu un mariage blanc, on appellerait ça comme ça aujourd'hui, avec tout ce que ça peut avoir de péjoratif, mais pas du tout dans ma bouche, parce que on voit qu'en fait c'est un acte généreux, c'est un acte de sauvetage finalement. Mais au fond, la vie qu'il peut lui offrir en France, alors qu'il n'a pas un rond, n'est pas extraordinaire.
Donc c'est un acte d'amour.
Et c'est un autre acte d'amour.
De divorcer.
Voilà, c'est une première séparation. Toute leur vie sera faite de ça, c'est-à-dire au fond d'actes qui peuvent paraître bizarres vu de l'extérieur, quand on dit qu'on s'est séparé plusieurs fois. Et je suis mal placé. C'est pour critiquer parce que...
On va y venir.
Oui, mais c'est vrai que c'est très difficile d'expliquer ça. Et je pense que le roman, c'est peut-être la seule manière justement d'entrer dans la vie de ces personnages et de faire comprendre pourquoi ils ont décidé de faire des choses pareilles.
En tout cas, ce que l'on constate, Jean-Christophe Ruffin, c'est que à chaque fois qu'ils vont divorcer, ils vont progresser dans la vie. À chaque moment de séparation, finalement, ils se retrouvent eux-mêmes et ils coulent quand ils se remettent ensemble. Oui, professionnellement parlant.
Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas vivre l'un avec l'autre, ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Mais je pense que ça aussi, c'est un fait peut-être d'expérience. C'est-à-dire que la séparation, l'éloignement, on sait qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la vie, c'est fréquent, évidemment, les gens se séparent, mais ils se retrouvent aussi, parce que la séparation peut aussi vous reconduire vers l'autre. Voilà. Et vous reconduire vers l'autre, changer en le redécouvrant, et c'est peut-être un amour nouveau qui naît à ce moment-là.
Ils ne vont jamais cesser de s'aimer.
Bah oui.
Et de penser l'un à l'autre, même lorsqu'ils sont divorcés.
Surtout quand ils sont
surtout, et ça, Jean-Christophe Ruffin, vous l'avez vécu. Vous le confiez dans une postface. On va pas tout raconter, sinon on dévoile le livre. Mais franchement, ça nous laisse pantois. Alors, je me suis renseigné, parce que bon, je connais un peu, mais je me suis renseigné quand même.
Ouais.
Vous êtes marié 3 fois avec la même femme.
Oui, oui,
en 86, 99 et 2007.
Oui, oui, bah oui, il y a un petit côté autobiographique dans cette histoire, mais en fait, moi, je peux pas raconter mon histoire, c'est pas possible. C'est, j'aime pas ça, je suis très gêné pour le faire, et j'ai besoin du détour de la fiction. Donc, en racontant l'histoire de ces personnages, j'ai mis évidemment beaucoup de moi-même, et c'est vrai que, voilà, si vous dites ça comme ça, vous êtes marié 3 fois avec la même femme, c'est ridicule,
juste,
c'est ridicule, ça fait marrer, quoi. Bah, voilà. Mais en réalité, il y a une logique dans ça, il y a une logique dans chacun de ces actes, et je crois que le roman, c'est peut-être le seul moyen de ce que disait Graham Greene, de rendre justice, quoi, de rendre justice à ces actes qui sinon sont inexplicables.
Mais vous montrez dans ce roman qu'à chaque fois qu'il y a divorce et à chaque fois qu'il y a remariage, on affine son sentiment. Ce qui laisse aussi entendre que l'amour peut être éternel, même en cas de séparation.
Oui, il y a quelque chose qui peut... Moi, je l'observe autour de moi avec des couples qui se sont remis ensemble ou qui conservent, en tout cas, même s'ils ne se remettent pas ensemble, des rapports très très proches et très affectueux avec le temps. Et je pense aussi que les épreuves rendent l'autre touchant, c'est-à-dire désirable et peut-être soi-même aussi plus accessible. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a cette volonté de paraître le plus fort, le plus gagnant possible, comme on dit. Et finalement, avec le temps... On se présente à l'autre d'une façon plus sincère, quoi, plus dépouillée. Et leurs échecs, à eux, ce couple, finalement, leurs échecs les rapprochent beaucoup. Ils sont beaucoup plus facilement et beaucoup mieux ensemble quand ils ont, d'une certaine façon, tout perdu que quand ils sont au fait de la gloire.
Bon, avant d'écouter Jacques Weber, qui vous écoute attentivement, et qui va lire un extrait de votre roman, Jean-Christophe Ruffin,
qui va ému,
interpréter même un extrait de votre roman. Vous êtes marié combien de fois, tiens, Jacques ?
Alors, deux fois avec la même femme, mais sans interruption. Enfin, c'était...
Comment ça, sans interruption?
Je vous explique en deux mots, c'est que je voulais tout de suite me marier. Donc, on s'était marié à la mairie, mais on n'avait pas le temps de l'église.
Ouais.
Et puis, 10 ans plus tard, j'ai dit, tiens, je sais si j'aime pas l'église, mais le bon Dieu, faire une chose un peu comme ça, au niveau de la spiritualité, ça m'a plu. Et puis, on s'est remarié 10 ans plus tard. Voilà.
C'est joli aussi.
On va écouter nos libraires. Jean-Christophe Ruffin, il y en a 3 qui ont lu votre livre, la Belgique, la Suisse et le Canada. On commence par qui?
Ah bah écoutez, je ne peux pas mettre de préférence, peut-être la plus loin.
Le Canada pour vous, la plus loin de la France.
Géographiquement, j'entends.
Allons-y, Josiane Letourneau, c'est à vous.
Bah, j'ai ressenti ce roman, Jean-Christophe Ruffin, comme un hommage total au couple, à la beauté indiscutable de sa passion et au tourbillon presque exaspérant de sa dualité. J'ai aimé ce parcours de plusieurs décennies parisiennes, on passe à travers une période pleine de rebondissements, et vous choisissez comme narrateur le gendre du couple. Je trouve que c'est une idée originale, mais parfois c'est peut-être aussi ce regard qui est vraiment à l'extérieur, qui donne un côté un peu biographique au roman.
Merci beaucoup Josiane. On va partir en Belgique, si vous voulez bien, avec Déborah Damblon. Qu'en pensez-vous, Déborah?
Eh bien oui, Emmanuel, il y a des écrivains hors normes, et vous, Monsieur Ruffin, ben, vous en faites certainement partie. Quand un livre arrive, eh ben, moi je trouve que c'est toujours la promesse d'un voyage incroyable, et puis cette fois encore, ça n'a pas manqué. Moi, je vous ai suivi, mais comme chaque fois, j'ai été touchée par votre humanité et j'ai été passionnée par vos histoires. Et puis comme chaque fois, j'ai pas marché mais j'ai couru, parce que c'est la magie Ruffin, ça. D'ailleurs, je pense que vous nous raconteriez le bottin, eh ben, on courrait tout pareil. Ça marche à tous les coups.
Je vais essayer,
c'est pas mal.
Merci, je vais essayer la prochaine fois, je me fatiguerai moins, je vais
remettre au bottin.
Claire Renaud pour la Suisse, êtes-vous d'accord avec tout ça?
Oh oui. C'est un vrai roman comme on les aime, avec des personnages subtils et hauts en couleur, et avec tout le romanesque qu'on vous connaît. On aime vos personnages, on a envie de vivre avec eux, et surtout on n'a aucune envie de les quitter. Et puis, on se surprend après la lecture à avoir envie d'aimer tout le monde. C'est quand même assez spécial, et surtout d'aimer éternellement. J'ai revécu toute cette seconde moitié du XXe siècle que vous décrivez très très bien. Bref, c'est un magnifique conte qui nous enchante et qu'on n'a aucune envie de refermer.
Voilà pour l'avis de nos libraires.
Merci.
Vous avez séduit tout le monde.
Très touché.
Bon,
très
quand touché. Elle demande l'un des divorces... Cette jeune femme, Ludmila, Edgar, va lui dire « Tu veux m'abandonner, c'est ça ?» Et elle répondra ce qui est selon moi la phrase clé du livre, Jean-Christophe Ruffin. Elle lui dira « Tu verras que c'est exactement le contraire. » C'est ce qui va se passer, on va le découvrir avec un extrait de votre livre lu par Jacques Weber sur la musique de Verdi.
Oh.
Oui, parce qu'il cite
Verdi
avec Aïda. Et je vais vous faire un signe au moment de lire. Jacques, vous êtes prêt?
Oui.
Allons-y.
Le coup de poker de Ludmila avait réussi au-delà de toutes ses espérances. Dans la nouvelle union que scellait leur deuxième divorce, Edgar était délivré des scrupules mentaux qui l'avaient tant entravé précédemment. Du coup, il avait retrouvé sa gaieté et toute son énergie. Il était redevenu lui-même drôle, optimiste et enthousiaste. Il avait fallu cette catharsis pour qu'il comprenne et accepte la manière que Ludmila avait de voir le monde. Il se rendit compte qu'il la partageait tout à fait et que leur amour, sans qu'il en eût conscience, était né de cette secrète et profonde ressemblance.
Ludmila, qui va chanter cet opéra de Verdi dans votre livre. C'est pour Saint-Jacques qu'on a choisi cette musique qui a l'air de vous emporter de façon magistrale.
J'adore Verdi.
C'est vrai?
Oui, c'est du gros théâtre, bien. C'est très beau.
Voilà, cette lecture. Ça vous plaît, hein? Vous êtes ému.
Ça me touche, oui, c'est très émouvant. De toute façon, c'est toujours émouvant quand un grand comédien lit vos textes, parce que d'abord, voilà, on le découvre pratiquement, on découvre ce qu'on a écrit. Et puis, avec ce fond musical, enfin bref, vous m'avez fait très très plaisir, Emmanuel.
Ludmila découvre aussi qu'il y a de multiples sortes d'amour et qu'on peut succomber, je cite, à plusieurs d'entre elles, même avec d'autres. Mais c'est pas pour autant qu'on n'aime pas.
Bah oui, parce que quand on passe sa vie à se séparer, à se retrouver,
c'est compliqué.
Surtout quand on fait des métiers comme ça, si vous voulez, parce qu'elle va devenir... Quand elle arrive en France, elle chante, elle parle pas le français. Hein. Le chant va lui permettre d'entrer beaucoup plus en contact avec les autres que la parole, puisqu'il va falloir qu'elle apprenne la langue, alors que le chant est beaucoup plus naturel pour elle. Et ensuite, elle va faire cette carrière qui... Je me suis amusé, au fond, à leur donner à ces deux personnages des vies qui ressemblent à des vies de gloire.
Oui, parce qu'ils vont réussir. Ils vont devenir célèbres.
Et voilà, donc elle, c'est
l'un et l'autre.
Une sorte de Callas de son époque.
Et l'autre,
ou plutôt
une sorte de
Julia
Tapie,
Johnson. Johnson qui a joué Carmen, parce que, au fond, elle devient très célèbre quand, justement, elle est filmée à l'opéra. Et puis lui
c'est un peu Tapie. Oui, mais vous le citez d'ailleurs, Tapie, c'est étonnant.
Enfin, c'est des... Voilà, mais qui... gagne tout, surtout Tapie, parce qu'il gagne tout et, moi j'insiste beaucoup, qui perdent tout.
Eh
moi
oui,
j'aime
ouais.
beaucoup les personnages qui, après avoir tout gagné, perdent tout, parce que c'est là que ça devient intéressant.
Bon, il y a plein de choses, plein de péripéties, on le disait. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin. Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla est paru aux éditions Gallimard, un roman qui a séduit nos libraires. On vous retrouvera dans la librairie francophone version télé début avril. Nous parlerons de ce livre, mais nous reviendrons aussi sur votre œuvre et notamment sur votre voyage sur le chemin de Compostelle avec des images. Ce sera sur TV5 Monde, la RTS, la RTBF et ici RTV. Vous restez avec nous, bien sûr. On va parler des mots et de la langue française avec le superbe magistral comédien Jacques Weber. À l'occasion de la semaine de la francophonie, vous allez pouvoir échanger avec lui. Jacques est prêt avec son charisme et sa générosité habituelle. À suivre aussi une jeune lectrice qui vous conseillera un livre de poche qui va faire réagir Jacques Weber. J'en suis persuadé. Enfin, je l'espère. Bonjour Rose.
Bonjour.
Tu as 13 ans, Rose.
Oui.
Et tu tiens un blog littéraire avec ta maman et tes sœurs.
Oui.
Et tu nous as contactés pour participer à l'émission et te voilà. Bon, bienvenue dans la librairie francophone.
Merci.
Ça va ?
Oui, ça
bon,
va.
Tout se passe bien, ils sont gentils avec toi.
Oui.
Bon, on écoute la chanteuse belge Angèle avec son frère Roméo Elvis. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout haut, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué.
que le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être
si simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si simple, sois juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais.
Angèle et Roméo Elvis avec Tout oublié sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Tous les mois, nous donnons la parole à un jeune lecteur ou une jeune lectrice pour un conseil de lecture. Aujourd'hui, c'est Rose qui est avec nous. Rose, donc, tu as 13 ans. Tu as choisi un livre de poche dans les classiques de la littérature. Et je pense que Jacques, ça va lui plaire. Alors, de quoi s'agit-il ?
C'est le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un sujet déjà qui est encore actuel et qui est très fort. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que il parle à la place du condamné à mort. À la première personne, donc ça rend vraiment quelque chose de très fort. Là, c'est la peine de mort, donc c'est quand même un sujet important.
Pourquoi c'est important ?
Parce que c'est encore le cas dans certains pays, alors que justement, quand on lit ce livre, on se rend compte que c'est juste pas possible, que ça devrait pas exister.
C'est dans ce livre, Jacques Weber. Avant de couper les têtes, cultivez-les, non ? C'est bien ça ? Non, mais parce que je trouve que c'est très accessible, Victor Hugo, assez rapidement.
C'est vrai, ouais.
Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté Victor Hugo est le plus grand, enfin, ce genre de grande déclaration de l'éducation nationale à une époque. On peut très bien l'entendre et très vite l'aimer. Son lyrisme est très proche des gens. C'est un verbe clair, fort, engagé, toujours rebelle. Et je trouve que même très jeune, on peut lire Victor Hugo. Hein.
Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, c'est édité par Folio. Merci beaucoup Rose, merci infiniment. Si comme Rose, vous voulez venir dans la librairie francophone pour conseiller un livre et que vous avez entre 12 et 17 ans, eh bien contactez-nous via Facebook ou Instagram Emmanuel Kérad.
Tu sais ce que c'est Mercedes ? Que t'agonisais lentement. Et plonger dans les ténèbres. Tu sais ce que c'est que croupir dans l'ordure d'une prison pendant 7814 jours, 187 356 heures.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Jacques Weber est dans la librairie pour son récit « L'entrée des mots » paru aux éditions de l'Observatoire. Il a crié « Oh, c'est moi !» quand il a entendu.
Ben oui, parce qu'il y a bien eu très très longtemps, c'était un autre moi-même.
Ça. Et oui, c'est ça. Et tout commence un peu avec ça, Monte Cristo. Alors on va y revenir dans un instant, oui. Mais tout commence aussi pendant l'enfance, Jacques Weber. D'abord, votre maîtresse d'école qui vous perturbe, qui vous raidit le zizi, comme vous dites.
La chance, c'est une chance. C'est mieux qu'un gros instituteur bedonnant quand même.
C'est sûr. Vous essayez de formuler comme ça intérieurement ce que vous ressentez. Et puis un jour, dans une librairie, votre père vous emmène acheter votre premier livre. Et vous choisissez ce livre, Le Comte de Monte Cristo.
Oui, parce que j'avais vu d'abord comme quoi il y a des passerelles entre le cinéma et la littérature qu'il ne faut pas nier. Parfois les films sont mauvais. Mais peu importe, ça donne parfois l'envie de lire du livre dont ils sont tirés. Et au cinéma de quartier, le Demours passait le Monte Cristo, qui n'était pas très bon, avec Jean Marais. J'adorais Jean Marais. Et je sais pas, cette histoire m'avait totalement passionné. Et à partir de là, le premier livre que j'ai voulu choisir avec mon papa, qui lui était dans le rayon Deleuze, Foucault, tout ça, c'était autre chose. Moi, c'était vraiment Monte Cristo que je voulais, qui était à l'étage des enfants, et avec les belles reliures et tout ça. Et là, quand je suis rentré là-dedans, je n'ai pas pu m'en sortir. J'étais vraiment totalement subjugué par cette aventure. Et je ne renie pas du tout, et ça je tiens vraiment à le dire, il y a des strates dans la lecture selon les âges, et on se trompe. Et moi, c'était un grand héros, comme Madame Bovary était une femme magnifique, comme Bellamy était un homme magnifique. Et dans les secondes, troisième, quatrième lecture, dans la vie, on se rend compte qu'il y a un creux derrière tout ça qui sonne dur, et ce sont des gens absolument effrayants, épouvantables. Monte Cristo, c'est l'échec de la vengeance, ça n'est pas le triomphe de la vengeance. Il y a un enfant qui meurt à la la fin, faut jamais l'oublier, voilà.
Alors votre père vous dit qu'il faut que ton livre vive et vieillisse. Il dit tu peux et dois la noter. Un bouquin vierge,
ça,
c'est
oui.
une plante qu'on oublie d'arroser.
Oui, c'est vrai.
Il vous dit d'écrire dedans.
Et moi, je trouve ça formidable parce que on a beau se dire, je vais m'en souvenir tellement c'est beau, mais c'est quand même mieux d'avoir un crayon et une gomme, je trouve. Puis c'est joli, ça vit, quoi. Et quand après, quand on ferme le livre et qu'on a fini et qu'on revient avec tous les passages soulignés, on se dit, ah, heureusement que je l'ai souligné parce que merde, ça sonne fort.
Et alors, vous devenez fou des livres, Jacques Weber.
Oui,
pourtant,
oui.
Comme beaucoup d'entre nous, vous avez détesté lire les livres qu'on vous obligeait de lire à l'école. Quel a été le déclic, alors? Comment ça s'est produit, ça?
Je ne saurais pas trop dire. Ce qui est certain, c'est que tout, c'est pour ça que je disais que tout agit, tout fonctionne. Il y avait un gars qui s'appelait l'oncle Paul dans la bande dessinée de Spirou.
Ouais.
Et l'oncle Paul racontait des belles et grandes histoires avec sa pipe, mon garçon, tu vas voir, etc. Donc c'était extrêmement moraliste. Et puis tout ça se mélangeait avec, de l'autre côté, une littérature absolument débectante, qui était la littérature du catéchisme.
Ouais, ouais.
Ou alors c'était déjà, bon, maintenant on nous dit comment aimer, comment baiser, comment bouffer. Et là, c'était comment réussir, vu par les cathos. Et puis il y avait le prince Éric. Alors là, c'était pire que tout, c'était le héros Arya dans toute sa splendeur, c'était un truc de Serge Dalins. N'empêche que, je ne le renie pas, j'ai pris un grand plaisir à ça. Mais petit à petit, bah justement, c'est ça qui est bien, c'est que plus on lit, plus ça creuse, ouais. plus ça travaille et plus ça se remet en place.
Et quoi. Alors, vous devenez grand, Jacques Weber, vous devenez
bah oui,
un jeune homme. Et puis un jour, on vous propose de jouer Monte Cristo. Et alors, ça vous donne des ailes, ça. Parce que vous vous préparez, vous répétez le texte, tout ça.
Ouais,
et
ouais,
vous
ouais.
partez rejoindre votre copine à Lyon, en partant de Paris, en vélo Solex. Qui est le vélo à moteur de l'époque, quand même.
Oui, alors personne
et vous mettez 5 jours.
Parce que pour moi, c'était un cheval, le vélo Solex.
C'était un cheval.
Ça avait un côté complètement
ouais,
dingue.
Vibrait,
le problème, c'est que j'étais tellement épuisé que la pauvre fille m'a dit « Mais tu es complètement con, parce que je pouvais plus marcher !» Parce que tu sais, les Solex, c'est dans l'imagine.
Ouais, déjà,
pas,
en scooter.
Pas l'autoroute, oui. c'était le Solex. Oui. T'allais pédaler, machin, remettre la Solexine. Je voulais aller vite, donc je pissais par devant tout en faisant du Solex.
Oh là
c'était
oh.
quelque chose. Mais je suis arrivé, j'avais fait 450 voilà. bornes à cheval pour la belle dame. Voilà.
Et après, vous partez en tournage et vous racontez des histoires incroyables. Mmh. Parce qu'à un moment, on vous envoie en mer. On doit vous récupérer en pleine mer.
Oui, c'est une histoire absolument vraie.
Et en fait, on vous oublie en pleine mer.
Lorsqu'il plonge du château d'If à la place de Farriac, et bon. Oui. Et après, il y a des pirates italiens siciliens qui le retrouvent. Et donc, on me fout loin dans l'eau. On me laisse avec un bateau pneumatique. On me dit, tu verras, à un moment, on revient avec le gros bateau et on te fera signe. Et tu pourras crier, olé, du bateau. Le problème, c'est qu'il y a eu coupure déjeuner. Et franchement,
ils vous
ont
oublié,
oublié pendant donc une heure.
Pour aller déjeuner?
Et très honnêtement, ben oui, c'était la coupure déjeuner ou sandwich. Et très honnêtement, franchement, j'ai eu peur. Comme ça, après, j'aime mieux vous dire que j'avais la gueule du révolté.
Bon, ouais. C'est raconté dans ce livre de Jacques Weber, L'entrée des mots, livre qu'ont lu les libraires, et notamment Thomas Auxerre en France.
Eh bien oui, Manuel, à la fois Jacques, vous donnez envie de lire et aussi de relire des classiques. Vous en parlez très bien. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vos retours de lecture, à la fois comme jeune lecteur un peu hésitant au début, et puis après comme lecteur aguerri. Ça, c'est très intéressant. On vous lit avec plaisir. Et puis, je me dis en plus que des enseignants pourraient s'emparer de certains passages pour les étudier en cours. À mon avis, ça peut faire sens et vraiment donner envie de lire.
C'est vrai. Josiane Letourneau pour le Canada, qu'en pensez-vous?
Eh ben moi, j'ai eu aucun mal à me laisser porter par vos mots, Jacques Weber, parce que je m'y suis reconnue. Bon, peut-être pas dans les mois particuliers causés par les bas-culottes d'une maîtresse d'école, mais certainement par ce lien vivant, tu sais, avec la littérature, ce lien qui résonne dans notre vie intime et qui parfois même nous fait grandir et nous libère. Et je crois vraiment que tous les passionnés, toutes les passionnées de littérature vont s'y reconnaître.
Et oui, parce que vous citez plein de livres.
Libère, qu'est-ce que c'est beau, ce petit accent sur libère. Le mot n'a plus le même sens. D'accord.
C'est ça la francophonie, c'est la
oui,
semaine
c'est
de la francophonie aujourd'hui.
Et vous savez, ce que je crois intéressant, c'est
d'opposer,
de comparer, voire de mélanger le rapport qu'il y a entre le lecteur un peu solitaire comme ça avec le livre dans le silence de la littérature et puis le travail d'acteur qui
ouais.
est vraiment une autre façon de lire les choses et d'aborder et lorsqu'on fait ce mélange on retrouve un petit peu un coin de la vie quoi tout simplement
vous citez Bellamy de Maupassant vous citez Jack London aussi vous avez joué Bellamy de Maupassant
Jack London je l'ai lu en
vous
scène
l'avez lu
à feu parce que
ouais.
ce que j'aime beaucoup dans ce petit livre c'est qu'il est tout petit très court et je crois que c'est une des choses les plus denses vous l'avez sans doute lu les gens qui savent raconter une histoire Alors ça, je ne le sais pas encore. Et je pense que le charme de mon livre, c'est mon incompétence à ne pas encore savoir raconter une histoire. Je sais, je crois, parler un peu de, des choses, mais je ne sais pas encore raconter une histoire. Ce sera la prochaine étape parce que j'ai vraiment envie.
Vous êtes un peu maladroit parfois, c'est vrai. Et pourtant, il y a des histoires que vous racontez très bien.
Oui,
mais, et notamment celle avec Marguerite Duras.
Ouais,
vous tombez sur l'article de Marguerite Duras, son article Le Coupeur d'eau, et cet article vous émeut aux larmes.
Oui.
Alors ce que vous, vous dites à ce moment-là, c'est qu'en le lisant, ça vous émeut tellement que ça doit être joué, ça doit être interprété.
Oui, je pense.
Donc vous devez avoir les droits et vous appeler Duras.
Et on me dit, il faut appeler Marguerite Duras. Et là, je vais imiter, je vous jure que je ne mens pas d'un millimètre. Allô, je vous prie de m'excuser, pourrais-je parler à Marguerite Duras, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Grand temps. Bonjour madame, je suis extrêmement honoré de vous avoir au téléphone. Voilà, j'ai l'idée de dire sur scène Le Coupeur d'eau. Je trouve que c'est un texte magnifique. Un temps immense. C'est génial, non? Alors je dis, oui, en effet. À chaque fois que je le relis, je pleure. C'est quand même des trucs.
Et ça s'arrête là?
Ah non, non, ça continue parce qu'après. Et
parce que dans le livre, ça s'arrête là.
Ah oui, mais après, ça continue. Elle me dit à quelle heure c'est? Alors, moi, je pensais qu'elle parlait du début du spectacle. Je dis, bah, 8h30. Ah bon, vous commencez par mon texte? Je voulais savoir juste à quelle heure. Ah non, mais c'était extraordinaire.
Et alors, vous l'avez fait?
Hein?
Ah, elle vous a donné l'autorisation?
Elle m'a donné les droits, bien sûr. Et je dois dire, pour moi, c'est un des grands, grands, grands textes que j'ai lu dans ma vie.
Vous écrivez, Jacques Weber, dans ce livre. En y repensant aujourd'hui, je me demande si l'acteur que je suis devenu n'est pas un vieux petit garçon qui revient tous les soirs pour être consolé.
Oui, c'est une phrase qui m'a sans doute échappé.
Oui.
Ça console beaucoup d'être et de rendre les larmes qu'on vous a interdites, je ne sais pas comment dire, et les redonner joyeusement, les repartager. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je crois. Alors, c'est peut-être dit un peu naïvement, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et je sens toujours chez les grands acteurs, soit on dit une part de féminité, mais il y a d'abord et avant tout une part d'enfance considérable dans tous les grands acteurs.
Vous êtes un grand enfant, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci Jacques Weber, merci infiniment d'être venu dans la librairie francophone. Votre livre « L'entrée des mots » est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous Jean-Christophe Ruffin également pour cette rencontre.
Merci.
Groupe réunionnais Transcabar est avec nous aujourd'hui. Jean-Didier Waro, Stéphane Waro, Théo Girard, Yannick Talley, vous êtes tous au complet. Jean-Didier, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le neveu de Daniel Waro. Vous êtes donc tombé dans le Maloya quand vous étiez tout petit et vous jouez du cayambe dans le groupe de votre oncle. Qu'est-ce que c'est que le cayambe?
Le cayambe, c'est, on peut l'associer à un hochet ici.
Un hochet?
Comme un hochet.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est composé avec des tiges de fleurs de canne à sucre. Et des graines à l'intérieur, des graines safran-marron. Mmh. Voilà.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Transcabar, trans comme transversalité, cabar comme le nom des fêtes Maloya réunionnaises, inspiré plus précisément par les services cabarets, des cérémonies d'hommage aux ancêtres, Stéphane Waro.
Oui, le service cabaret, c'est là où s'est créé, et surtout où s'est transmis le Maloya de manière cachée, parce que c'était mal vu, parce que c'était interdit aussi. À une époque, et du coup, il y a toute une génération de musiciens qui s'est battue pour faire reconnaître cette musique et faire qu'elle existe. Et ça s'est transmis dans ces cérémonies-là.
Ouais.
C'est une cérémonie d'hommage aux ancêtres, où ça dure toute la nuit, il y a à manger, il y a des offrandes.
C'est une sorte de transe, en fait, c'est ça.
Il y a un maître de cérémonie, puis il y a de la musique, et puis il y a la transe pour que les esprits prennent possession du
corps. Un peu comme la musique gnawa aussi, qu'on retrouve au Maroc, hein, ça se rapproche de ça. Dans le Maloya, l'essentiel, Jean-Didier Waro, c'est l'esprit et le cœur, vous le dites. Il ne faut pas oublier l'essentiel. Et on a tous, d'ailleurs, une définition propre de l'essentiel dans la vie.
On ne s'écarte pas de la voix.
Qu'est-ce que c'est la voix pour
la
vous?
La voix, ben moi, ce que je, dans les services cabaret, ce que j'ai fait attention, c'était la voix du chanteur qui était là, parfois très rauque, très engagé, et puis parfois vraiment volatile, aérienne, douce. On met tous ces reliefs dans la soirée, des temps forts, des temps faibles, Et voilà, et tout ça, ça amène à la transe. Tout le monde trouve sa position dans la soirée. Tout le monde trouve sa place. Tout doucement, sans forcer les choses.
Chacun trouve sa place. Voilà. Et vous-même, sur scène, Stéphane, vous aussi, vous sentez porté par le Maloya qui est, il faut le rappeler, depuis 2009 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'est très fort, ça.
Ouais.
Ça vous porte sur scène, vous aussi. Vous partez ailleurs.
Oui, beaucoup, parce que aussi il y a quelque chose de très rassembleur en fait dans le Maloya. Il y a, c'est pas que de la musique. Il y a quelque chose de là-dedans où ça porte toute la culture réunionnaise. Et il y a ce côté où peu importe la classe sociale, la religion, la couleur de peau, riche, pauvre, tout le monde. Il y a un côté très rassembleur dans cette musique-là. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Là-dedans.
Toute la culture réunionnaise. Vous avez raison. Vous allez jouer un titre extrait de votre premier album Maligacé. 7 morceaux puisés dans le répertoire traditionnel Maloya, mais aussi chez Daniel Waro ou Tim Morris, aussi grand artiste de la Réunion. Je vais vous laisser vous installer, Transcabar, pour interpréter un extrait donc de ce premier album. Et comme chaque mois, nous filmons cette séquence dans notre studio pour la diffuser dans la version télé de l'émission qui sera diffusée début avril sur les chaînes de télévision francophones et sur TV5 Monde. Les caméras sont en place. Voici Olinde dans la librairie francophone Transcabar. Transcabar dans le studio de la librairie francophone avec Olinde dans une version acoustique. Merci beaucoup Transcabar. Magnifique titre, magnifique, que vous pouvez retrouver sur le premier album du groupe Maligacé, une séquence qui vient d'être filmée par l'équipe vidéo de France Inter. Vous pourrez voir ce titre en image dans la librairie francophone télé début avril sur RTS2, RTBF La 3, ici RTV et sur TV5 Monde. Merci Jean-Didier.
Merci.
Quelle énergie. Formidable. Merci à vous.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Les coups de gueule et les coups de cœur de nos libraires, avec des liaisons perturbées en raison d'un mouvement de grève, mais ils sont bien là et ils sont évidemment agités avec cette musique formidable. On commence par un coup de gueule, Thomas Auxerre en France.
Eh ben oui Manuel, un coup de gueule et surtout une grosse inquiétude pour la présence encore une fois du géant Amazon au Salon du Livre de Paris. Alors leur stand grandit chaque année,
ouais.
Y a pas grand chose à vendre à part les 10 000 ventes et des liseuses électroniques, donc un stand pour se redorer le blason, enfin une vitrine quoi. Mais bon, n'oublions pas que si les centres-villes voient leur commerce fermé, notamment des librairies, c'est bien en partie à cause de ce monopole de ce géant, qui en maximisant ses profits et puis en optimisant fiscalement, comme on dit, pour pas dire pire, laisse vraiment l'humain derrière. Donc moi je suis en colère, et puis je suis aussi un peu inquiet pour l'avenir quand même.
Il est en colère, effectivement Thomas Auxerre, on vous le rappelle, achetez vos livres dans les librairies indépendantes.
Absolument.
Il y en a dans toutes les villes du monde francophone, et n'achetez pas, je le dis, je le redis, on va avoir des problèmes, mais c'est pas grave, n'achetez pas chez Amazon. Merci Thomas. Un coup de cœur dans le rayon des BD, Claire Renaud en Suisse.
Mais oui, Emmanuel. Je vous propose le troisième volume, L'Imposteur, qui clôt un cycle qui s'intitule Terre, publié chez Daniel Madden par Rodolphe et Dubois. Alors c'est un magnifique album, tout en couleurs, donc illustré par le Suisse Dubois, et un texte qui nous tient en haleine, qui est plein d'humanité et d'amour, tout en étant assez violent. Et il nous offre vraiment un univers dans un futur qui pourrait être proche ou lointain et qui nous emporte surtout ailleurs. Et je trouve que c'est à découvrir de toute urgence.
Rodolphe et Christian Dubois pour TER tome 3, L'Imposteur. Merci Claire. Autre coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Et oui, parce que quand on a aimé beaucoup, beaucoup un livre, Emmanuel, c'est toujours un bonheur de le voir sortir en poche parce qu'on sait qu'on va pouvoir le faire vivre encore très, très longtemps. Et aujourd'hui, c'est Robinson de Laurent Demoulin.
Ah, oui.
Vous vous souvenez, le prix Rossel qui arrive sur nos tables. Et c'est un roman formidable.
Formidable. Moi, j'avais été très, très ému par ce livre, vraiment.
Voilà, où l'auteur met en scène sa famille et puis son jeune fils qui est, oui, autiste par rapport au non-autiste. Et c'est à la fois formidablement bien écrit et puis c'est un concentré d'amour et d'humanité, il faut le lire absolument.
Robinson de Laurent Desmoulins qui sort donc en poche. Achetez-le absolument, lisez-le, achetez-le dans votre librairie indépendante. Enfin, le Canada, Josiane Letourneau, un coup de gueule, vous êtes au bord de la crise de nerfs, il paraît,
ah,
Josiane.
Oui, non, mais on dit que la rentrée littéraire printanière n'est pas aussi chargée que celle de l'automne, mais par chance, parce que j'ai officiellement atteint le niveau du burn-out littéraire.
Le burn-out, c'est pas très francophone ça, saturation.
Alors écoutez, ben, ok, le stade d'épuisement professionnel et personnel littéraire.
Oui, c'est mieux.
Alors franchement, je suis même à deux doigts d'investir un fonds de pension que je n'ai pas dans le développement d'une intelligence artificielle ou d'un clone, n'importe quoi qui pourrait me permettre de lire plus.
Ouais.
Alors voilà. Je suis à bout, comme on dit.
Bon, courage. C'est un problème de riche, ça, de lire des livres, quand même.
Effectivement. Je suis très, très riche à ce niveau.
Oui, très riche. Merci, Josiane. En cette semaine de la langue française et de la francophonie, on donne un coup de projecteur sur le prix des 5 continents décerné par un jury de grands écrivains réunis par l'OIF. Chaque année, vous le savez, nous nous associons à cet événement. Voici donc un florilège avec les 3 derniers lauréats. Le Belge Jean-Marc Turine, le Tunisien Yamen Manaï et la Tunisienne Fawzia Zouhari. On commence avec elle pour une anecdote autour de sa mère qui sera le point de départ de son roman Le corps de ma mère, prix des 5 continents 2016. Et puis nous irons à Erevan, en Arménie, dans un lieu symbolique avec Jean-Marc Turine, prix des 5 continents 2018.
Ce n'était pas possible d'écrire sur ma mère. C'était une épreuve trop difficile. J'avais l'impression que le métier d'écrivain était presque un métier de charognard. Et donc je me disais, ma mère, non. Et puis il y a eu la révolution et j'ai eu le courage d'avoir les mots pour dire les secrets, pour transgresser un tabou qui est celui de parler de l'intimité des femmes.
Et puis il y a deux choses que vous avez transgressées surtout. Deux interdictions de votre mère en quelque sorte, devenir écrivaine et vous marier avec un étranger.
Oui, d'ailleurs, si je peux vous raconter une histoire très rapidement, il y a 15 jours, j'étais sur sa tombe dans mon village et je me suis approchée et j'ai dit « pardonne-moi ». Et je l'ai dit très silencieusement et mes sœurs m'ont dit « tu lis le verset ?» le verset consacré aux morts, j'ai dit oui. Mais en fait, je lui demandais de me pardonner parce que j'avais enfreint son interdiction d'avoir un métier d'écrivain et surtout de parler d'elle et de ses secrets.
Et dans le livre, vous écrivez « Je ne peux pas lui en vouloir », comme s'il y avait une fatalité chez les Arabes à absoudre les mères.
Oui, parce que vous savez que nous sommes dans une tradition qui dit que le paradis et sous le pied de vos mères. Donc, comment, et d'une façon générale, vous avez un monde arabe dans lequel l'intime, par définition, est celui des femmes. C'est pour ça qu'on les couvre. C'est pour ça qu'il y a une architecture à chaque fois de l'envoilement. Or, dire les choses, dire le secret familial, et arriver jusqu'à dire les mères, c'est trois fois transgresser la tradition. Ouais, ouais. Et donc, je me sens toujours coupable. Je lui ai demandé pardon, mais j'en suis toujours là.
Bon, ça va s'arranger. C'est une histoire avec vous-même maintenant.
Oui, quelque chose me dit qu'elle m'a pardonné.
Oui, je pense.
Oui.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Queyrade.
Et bonjour Jean-Marc Turine.
Bonjour Emmanuel.
Je vous laisse nous dire où nous sommes.
Mais nous sommes au mémorial du génocide des Arméniens. Et c'est le premier génocide du XXe siècle. Suivront le génocide des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, c'est le génocide des Tutsis, ou Rwanda. Donc effectivement, on a la chair de poule ici, parce que d'abord, il fait très calme, les gens parlent doucement. C'est un peu comme à Auschwitz-Birkenau, quand on se promène, on peut être 500, 700, 1000, tout le monde parle à voix basse, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que j'ai obtenu ce prix des 5 continents à Erevan. Et mon livre est axé sur... Ouais. En grande partie sur le génocide des Tziganes, et je me retrouve dans la ville qui mémore le génocide des Arméniens. Et, et là, on approche, j'imagine.
Alors voilà, on arrive, on est au pied d'une pointe, d'une flèche qui est très très haute, tout en béton, fabriqué d'une façon très austère au final. Et puis, alors là, on a une sorte d'amphithéâtre.
On va descendre là.
On va descendre, il y a des marches. Et c'est comme un peu comme un chaudron, hein, on dirait.
Oui, oui, c'est très, très impressionnant de voir cette construction. Ça me fait penser au musée juif de Berlin.
Ouais.
Je ne sais pas si ça parle.
Il y a beaucoup de vent. Et puis voilà, effectivement, on a une flamme.
Perpétuelle qui
dans l'embrasure, finalement, on arrive à entrer.
C'est très, très beau. C'est beau. C'est une belle chose ici.
Alors, on va essayer de descendre, mais sans faire trop de bruit, parce qu'à mon avis, c'est un lieu de recueillement.
Oui. Il y a de la musique.
Autour de cette flamme, il y a des fleurs.
Oui, des œillets.
Des œillets.
On trouve des marguerites là-bas.
Qui entourent la flamme. Oui. Flamme, évidemment, placée
au centre.
L'espace est circulaire et les fleurs sont très bien rangées. C'est très précis dans l'organisation de la disposition des fleurs.
Oui. Ça fait pleurer une musique comme ça.
Ah, c'est dur, hein. Oui.
C'est dur.
Alors, le lieu est très austère, hein, fabriqué de pierres grises. Oui. C'est un édifice qui s'élève vers le ciel, un cercle dans lequel nous sommes, avec donc toujours cette flamme ici à Erevan. Il y a dans votre livre, Jean-Marc Turine, un personnage, la vieille Théodora, qui raconte son histoire dans sa région natale. Elle est retournée finalement y mourir, sur les rives du Danube. Oui. Et elle dira à un jeune garçon qui la regarde, « Traverse les frontières, va à la découverte du monde, foule la terre. Va comme je l'ai fait, même sans savoir où tu vas. Qu'importe de savoir où tu vas, puisque tu y vas. »
Oui. C'est quelque chose qui m'a fortement impressionné. Ça, c'est la capacité de certains, pas tous, à oser partir et franchir les frontières et trouver une forme de liberté et d'avoir aussi beaucoup plus d'humanité, peut-être plus de générosité à l'égard de ceux qui n'osent pas bouger, qui sont là dans leur histoire, dans leur timidité, dans leur peur viscérale, dans leur pauvreté économique. Et il y en a quelques-uns qui partent.
Et elle lui dit aussi « Métisse-toi le plus possible ». C'est ça aussi l'histoire, c'est ça son histoire. Un exil permanent, des rencontres, des adoptions et des histoires d'amour. On va remonter, Jean-Marc Turine, on va laisser les Arméniens qui sont autour de nous se recueillir, car il y a vraiment une ambiance de recueillement ici. Et quand on sort, évidemment, on voit la flèche.
Magnifique, magnifique construction.
« Le livre de Jean-Marc Turine, La Théo des Fleuves, est paru aux éditions Esperluette et c'est le prix des 5 continents 2018. Autre auteur qui a reçu ce prix en 2017, le Tunisien Yamen Manaï, a publié Lama Ardent chez Elizade. Nous étions en public en France devant 200 lycéens pour parler de cet ouvrage captivant. Il y a le prince du cafard dans votre roman, le prince du cafard, qui va tenter de mettre la main sur la Tunisie pour s'octroyer ses richesses naturelles, du gaz et du pétrole. Notamment, il arrive chargé de denrées et de vêtements pour que le parti islamiste puisse les distribuer aux populations pauvres, et aussi pour les faire voter, en fait, hein, les faire voter pour eux. Mais dans cette cargaison, il y a un nid de frelons asiatiques. Et votre livre, c'est un conte, c'est une métaphore en fait, hein, les frelons asiatiques qui attaquent les abeilles face aux islamistes qui, eux, attaquent les paysans.
Oui, en fait, ils attaquent une population qui n'est pas armée, comme les frelons peuvent attaquer les abeilles. Alors, l'idée du livre m'est venue d'une anecdote d'un potier bordelais qui avait importé en France des pots de Chine. Et en fait, il a découvert en ouvrant les pots qu'il y avait un nid de frelons asiatiques qui est venu de la Chine, donc qui a fait le voyage en avion dans le pot. Et en fait, ce frelon-là asiatique aujourd'hui colonise tout le sud-ouest de la France et remonte même dans des régions où il n'est pas forcément le bienvenu. Et il est un prédateur redoutable des abeilles européennes parce que les abeilles européennes ne le connaissent pas.
Ouais, alors c'est vrai que votre personnage principal est un apiculteur tunisien. Il nous apprend beaucoup de choses sur les abeilles. Le frelon asiatique est la plus grosse espèce de frelon au monde. Avant d'attaquer les ruches, il envoie toujours un éclaireur.
Alors en fait, l'inspiration complète du livre m'est venue quand j'étais en train de regarder un documentaire sur National Geographic où j'ai vu justement ces frelons géants se prendre à des ruches. Et le commentateur du documentaire expliquait qu'il y a des abeilles qui arrivent à se défendre contre ce frelon-là. C'est les abeilles japonaises parce qu'elles ont côtoyé le frelon asiatique pendant des millions d'années et elles ont réussi à comprendre sa faiblesse. Là où... une vingtaine de frelons géants peuvent anéantir une ruche de 40 000 abeilles. Quand ces frelons prédateurs viennent attaquer une ruche d'abeilles japonaises, les abeilles japonaises ont une technique de défense que moi j'ai appelée dans le livre « Lama Ardent » et qui en fait consiste à une solidarité sans faille des abeilles face à cet agresseur. Concrètement, comment ça se passe? Les abeilles couvrent le frelon asiatique, font monter leur température à un certain degré que le frelon ne tolère pas. Et du coup, elles le rôtissent par une sorte de montagne qu'elles font au-dessus de lui.
En fait, elles vibrent autour de lui pour faire monter la température à 45 degrés. Les abeilles supportent 48 degrés, donc elles battent des ailes comme ça, toutes serrées, autour de lui par centaines.
Oui.
Le frelon cuit, en fait.
Oui, tout à fait.
Et une fois qu'il est rôti, elles s'en vont.
Elles le dégagent de la ruche, elles le sortent.
Mais c'est une histoire vraie, c'est vrai, c'est la nature.
Oui, tout à fait. Vous pouvez le voir sur YouTube, vous tapez Giant Hornets versus Japanese Bees, ou vous tapez frelon géant.
C'est pas francophone, contre
l'abeille. Bah, oui, parce qu'en fait, des fois, on n'arrive pas à trouver forcément toutes les séquences en français. Donc, vraiment, ça existe et c'est formidable.
Ouais, voilà, Yamen Manaï, que vous pouvez applaudir. Lama Ardent, prix des 5 continents de la francophonie.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse burkinabé Candy Guira. Candy Guira, Beogo, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. Abonnez-vous à Instagram pour découvrir les coulisses de l'émission, entre autres. À la réalisation, Étienne Bertin avec Gilles Gaillard, Nicolas Cazot et Stéphane Beaujat, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikils avec Valérie Leput en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet avec Elsa Pépin au Canada. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre grand voyage francophone. Passez un très bon week-end et une bonne semaine. Salut.